Gloire au Seigneur. J'avais témoigné une fois d'un épisode qui m'était arrivé. Et en discutant aussi avec d'autres personnes, finalement, je me suis rendu compte que il n'y a rien de nouveau sur terre. Quelquefois, nous vivons des difficultés, nous sommes dans certains états où nous avons l'impression que les choses semblent plus faciles pour d'autres et que, par conséquent, notre souffrance, notre épreuve, nos problèmes sont plus importants que ceux des autres. Je priais un jour le Seigneur et je demandais au Seigneur de me délivrer de moi-même, c'est-à-dire de délivrer de tous les mauvais penchants, des choses qu'autrefois on pensait avoir abandonnées mais qui se remanifestent quelquefois, des choses pour lesquelles nous pouvons discerner qu'il y a un lien avec la famille, on cherche à s'en débarrasser. Et souvent, dans ce genre de prière, tel était mon cas, on fait souvent la relation avec les influences démoniaques, avec les influences des esprits, avec les démons, avec les sorciers, avec toute influence extérieure qui viendrait nous influencer et nous maintenir dans un état. Alors je disais, Seigneur, délivre-moi de tout ça, délivre-moi de moi-même, délivre-moi de ma chair en quelque sorte. Et voilà que le soir même ou le lendemain, en tout cas c'était très proche, je fais un songe où j'étais dans cette salle et nous arrivons à la fin du culte. Et le prédicateur demande à ceux qui souhaitaient s'avancer pour être bénis de s'avancer. Et moi j'étais dans les rangs. Et comme physiquement je sens une main qui m'attrape par la main, par le poignet et qui me tire devant et qui me ramène juste devant l'estrade. Et là, la voix du prédicateur me dit, ce n'est pas une question de démon, délivre-toi toi-même. Alors, je me suis réveillé parce que c'était tellement réel, et Dieu est tellement bon qu'au moment où même je me réveille, je comprends ce que Dieu veut me dire. Je comprends où était le problème. À travers cette parole-là, j'ai comme été mis à nu. Et il nous arrive quelquefois de demander et de prier le Seigneur, mais en réalité, nous savons au fond de nous ce que Dieu attend. On demande quelquefois des choses au Seigneur, mais la réponse quelquefois elle est au-dedans de nous. Mais on aimerait quelque part que Dieu nous réponde selon nous en réalité. Ou quand ça va à l'encontre de notre volonté, on aimerait quand même que Dieu aille dans le sens qui va nous plaire. Et lorsque je me réveille et que je comprends ce songe-là, je comprends que le Seigneur vient de me répondre à ma prière lorsque je disais « Seigneur, délivre-moi de moi-même ». Et comme je disais, il y a certaines prières que nous faisons ou certaines difficultés que nous vivons. On a du mal à s'en sortir et on veut attribuer ça aux sorciers, on veut attribuer ça aux démons. En quelque sorte, on veut pas prendre toute la part, toute la charge de responsabilité. On veut se dire, bon, je suis un peu responsable, mais derrière ça, il y a forcément le diable. Et là, dans le songe, on me dit, c'est pas une question de démon, délivre-toi toi-même. Non pas que nous avons la capacité de nous délivrer nous-mêmes, parce que c'est Dieu qui accomplit toutes choses. Mais le Seigneur voulait me faire comprendre que ce dont tu me demandes, en quelque sorte, je t'ai déjà donné les moyens. Mais c'est à toi de faire le choix de renoncer, tout simplement. Renonce à la chose pour laquelle tu penses être esclave. Et c'est notre thème ce soir, c'est de nous rappeler que Jésus-Christ a vaincu le péché. Et que par conséquent, ayant vaincu le péché, il nous donne aussi autorité sur le péché. Ce qui veut dire que la puissance du péché, en réalité, n'a plus de pouvoir sur nous. Donc nous ne pouvons pas être esclaves du péché en prétextant que nous n'avons pas la force de nous en sortir. C'est faux. Lorsque je parle du péché, bien aimé, c'est tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Mais il y a aussi des choses qui peuvent être pas péché directement. Certains mauvais traits de notre caractère. La facilité à se mettre en colère. Quelquefois on est conscient de ça. À peine on se fâche et on se dit, mais je m'étais dit que je ne me mettrais plus en colère. Mais voilà que ça a été plus fort et c'est parti. Et il y a beaucoup de choses comme ça dans lesquelles nous sommes liés, nous sommes attachés et on a le sentiment que c'est au-delà, ça va au-delà de nos forces. On a le sentiment qu'on ne va pas s'en sortir. Lorsqu'on arrive à tenir une semaine, un mois, trois semaines, deux mois, on a le sentiment que tout est gagné. Et voilà que lorsque la chose arrive, on se dit c'est trop fort pour moi. Et quelquefois on baisse les bras. On ne veut plus se battre, on ne veut plus lutter. On aimerait dormir, se réveiller un beau matin et que tout est disparu. Que Dieu ait fait le miracle de nous délivrer de toute envie charnelle, de tout besoin charnel, on aimerait se réveiller et que Dieu ait fait tout à notre place. Dieu est capable de le faire, mais Dieu nous a créés libres. Et notre marche avec le Seigneur est une collaboration dans laquelle Dieu agit à condition que nous lui en donnons l'accord. Mais cet accord-là, c'est ce choix que le Seigneur attend. Le véritable choix de renoncer à tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Quelquefois, nous ne renonçons pas parce que toutes ces choses-là, quelquefois auxquelles nous sommes esclaves, nous servent. Quand tu es esclave de la colère, ça t'aide quelquefois pour résoudre certains problèmes. Lorsque les gens résistent, mais lorsque tu te mets en colère, tu arrives à obtenir des choses. Donc même si c'est mauvais, c'est quand même une force, un instrument que tu utilises quelquefois, malgré tout, pour te sortir de certaines situations. Tu es esclave du mensonge. Tu as envie d'arrêter, mais c'est dur. Mais quelquefois, le mensonge t'a sauvé la mise. Alors, ça t'arrange un petit peu. Et on justifie, oui, mais c'est sorti plus vite, c'est sorti trop vite, j'ai pas eu le temps. Mais quelque part, la chose était là. Et non pas qu'on se glorifie, mais tu te satisfais quand même d'être sorti d'une situation. Parce que tu considères que tu es esclave du mensonge, mais que quelque part, ça a été plus fort que toi. Il n'y a rien qui soit au-dessus de notre force. Si nous considérons, bien aimés, que la chose pour laquelle nous cherchons à nous débarrasser, la chose pour laquelle quelquefois nous prions aussi depuis longtemps, si nous considérons que cette chose est au-dessus de nos forces, alors nous faisons de Dieu menteur. Et la Bible, dans ce cas-là, est totalement fausse. On nous dit qu'il n'y a aucune tentation. Aucune tentation qui sera au-delà de nos forces. Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Et le Seigneur dit dans Jérémie 1:12, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Alors Dieu dit qu'il n'y a rien qui puisse aller au-delà de nos forces. Mais dans tout ce que le Seigneur permet, il nous donne aussi le moyen de nous en sortir. Autrement dit, la chose pour laquelle nous luttons, que nous confessons avoir du mal à nous en détacher, que c'est trop dur, que je n'y arrive pas, c'est faux. Ça, c'est pas la vérité de la Bible. La vérité de la Bible, c'est que Jésus-Christ a dit « Tout est accompli ». Tout est accompli. Avant d'envoyer ses disciples en mission, il dit « Tout pouvoir m'a été donné. Allez maintenant et faites de toutes les nations des disciples. Tout pouvoir m'a été donné. J'ai reçu l'autorité sur la mort, l'autorité sur le péché, l'autorité sur l'enfer, sur les démons, sur Satan. Puisque j'ai cette autorité, je vous la donne maintenant pour faire l'œuvre pour laquelle je vous envoie. » Nous prenons Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. La Bible nous dit au verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Voilà le rappel que l'apôtre Paul fait aux Éphésiens. Il dit, maintenant vous avez était revêtu du nouvel homme par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Quand nous acceptons et nous reconnaissons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur opère en nous un changement qui fait que l'ancienne nature est morte et que nous vivons désormais en nouveauté de vie, c'est-à-dire selon l'identité du Seigneur, par les vertus du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons désormais vivre et manifester clairement la nature de Dieu. Mais il dit, voilà ce que vous étiez autrefois. Vous étiez comme les païens. Il dit, nous étions tous de ce nombre-là. Des gens qui marchaient selon leur propre convoitise, qui marchaient avec leur propre intelligence, selon leur propre penchant. Et nous étions en abomination vis-à-vis de Dieu. Mais l'une des réalités qui est là, c'est que l'ancien homme que nous étions n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas faire mieux. Il ne pouvait pas faire autrement. La vie que les païens manifestent aujourd'hui, bien qu'ils s'efforcent à faire le bien, ce bien-là sera toujours limité parce qu'ils n'en ont pas la capacité. Et nous étions de ce nombre-là. Autrefois, nous n'avions pas la capacité de faire ce que le Seigneur attend d'un homme pour entrer dans son plan. On n'avait pas cette capacité puisque le péché en nous rendait tout cela simplement impossible. Mais c'est pourquoi Dieu nous a fait don du Saint-Esprit. Selon Éphésiens 1:13, parce que nous avons cru à l'évangile, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et étant scellés du Saint-Esprit, nous avons désormais la capacité d'accomplir et de vivre ce que le Seigneur attend de nous selon les Écritures. L'ancienne nature est passée et nous sommes appelés désormais à vivre selon la nouvelle nature, selon l'identité du Seigneur, selon le véritable enfant de Dieu. Mais la réalité que je soulevais tout à l'heure en introduction, c'est que bien que étant enfant de Dieu, on se retrouve quelquefois à vivre dans les mêmes conditions du passé. On se retrouve quelquefois lié dans les mêmes conditions du passé par des choses qui nous empêchent de vivre, d'être en véritable communion avec Dieu, par des choses qui nous attristent, parce que la culpabilité, le poids du péché est là. Étant conscient que nous sommes devenus enfants de Dieu, ça fait mal de trahir le Seigneur. Ça fait mal de pécher contre Dieu et de se rendre compte que Jésus-Christ a tout accompli pour que nous vivions en nouveauté de vie, mais nous voilà, en tant qu'enfants de Dieu, vivre comme il y a quelques années lorsqu'on ne connaissait pas le Seigneur. Mais l'apôtre dit qu'il n'en soit pas ainsi. Puisque vous avez été revêtus maintenant du nouvel homme, marchez en nouveauté de vie. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Soyez renouvelés par le Saint-Esprit et pratiquez les œuvres dignes des enfants de Dieu. Mais nous voilà à tomber, à faire ce qui est mal. La Bible a prévu beaucoup de versets pour ça. Il nous est dit dans 1 Jean 1:9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. » La question que je soulève, ce n'est pas la faiblesse que nous pouvons avoir en tant qu'humains et tomber dans un péché. Par la repentance, nous nous relevons, nous demandons pardon à Dieu et nous recommençons la vie avec lui. La question que je soulève, c'est le problème d'être esclave. Le problème d'être dominé par quelque chose qui semble au-dessus de nos forces. Lorsqu'on est esclave de quelque chose, ça soulève une première réalité. C'est que Jésus-Christ n'est pas totalement Seigneur. Parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Sur le trône, il ne peut pas y avoir deux personnes assises dessus. Donc s'il y a quelque chose pour laquelle nous sommes esclaves, ça veut dire que la place du trône est partagée avec le Seigneur. Mais le plus grave, c'est que nous vivons comme si il n'y avait pas de solution. On marche dans la défaite, on marche la tête basse, comme si le problème était trop élevé pour nous et qu'il n'y a pas d'autre moyen que de subir. Et beaucoup subissent. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir des personnes pendant des semaines ne pas prendre la Sainte Cène. Donc il n'a pas la foi que par la repentance, même s'il est entré ici avec son péché, mais avec cette volonté, le choix de suivre le Seigneur et de renoncer à son péché, il n'a pas foi qu'à l'instant même, il peut recommencer la vie avec Dieu. Alors il entre et il repart tel qu'il est venu, sans avoir saisi et compris la grâce de Dieu. Ça, c'est le témoignage de la défaite, de celui qui considère que son problème est trop grand et que la prédication n'a pas suffi pour le fortifier, que les louanges, les paroles exprimées par les louanges n'ont pas suffi pour le relever. Il considère que son problème est trop grand, et il marche dans la défaite, et par conséquent, il ne s'engage pas non plus avec le Seigneur. Il ne cherche pas à faire deux pas de plus avec le Seigneur, parce qu'il se dit que j'ai ça avec moi, je n'arrive pas à m'en sortir. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas une question de démon, ce n'est pas une question forcément de délivrance. Il y a des gens qui pensent que leur problème va cesser uniquement par l'imposition des mains. Tu peux avoir un souci pour la délivrance, parce qu'il y a des manifestations, des choses que tu ressens en toi. La Bible nous dit qu'au nom de Jésus, on va chasser les démons. Gloire à Dieu. C'est une réalité et nous le pratiquons au nom de Jésus. Mais la simple imposition du pasteur ne va pas suffire pour changer ta vie si toi tu ne fais pas le choix volontaire et déterminé de suivre le Seigneur. On va t'imposer les mains jour et nuit, pendant des mois, pendant des années, ta situation ne changera pas si toi tu ne fais pas le choix de t'en sortir. Si tu ne fais pas le choix de renoncer pour que la plénitude de Dieu habite en toi, afin qu'il n'y ait plus la place à toutes ces influences qui te font toujours retomber dans les mêmes choses. Tout est une question de choix et une question de détermination. Une fois, je disais, en prenant l'exemple du diable, la Bible nous dit qu'il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il a peu de temps parce que son sort à lui est déjà scellé. Il sait qu'il finira éternellement dans le feu. Alors le peu de temps qui lui reste, avant que le Seigneur revienne, ce temps-là, il le consacre à massacrer les hommes, à persécuter les chrétiens, mais surtout à les emmener à trouver la mort dans le péché. C'est ça qu'il veut faire. Et la Bible dit qu'il est animé d'une grande colère parce qu'il a peu de temps. Il est déterminé. Il est déterminé parce qu'il a une colère, il a une haine vis-à-vis des hommes que Dieu a créés à son image. Il est animé d'une grande colère parce que l'homme qui est une créature si merveilleuse adore le Seigneur sans rien attendre en retour. Lui, pour qu'il soit adoré, il est obligé de donner de l'argent à des gens, de les enrichir. Mais nous, nous n'avons rien du tout. Mais nous adorons le Seigneur parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Créateur. Et le diable est animé de cette colère-là. Alors il est déterminé à détruire tout ce qui manifeste la gloire de Dieu, à commencer par les humains. Il est déterminé alors qu'il sait qu'il a déjà perdu. Et c'est ça qui est grave. De savoir qu'il y a d'autres qui ont déjà la victoire, mais qui n'ont pas cette détermination. C'est ça qui nous manque, bien-aimés, pour sortir de ceux qui nous environnent, pour sortir de ceux qui nous rendent esclaves. Ce n'est pas une question de diable, ce n'est pas une question de démon seulement, mais c'est d'abord une question de volonté personnelle. Les païens que nous voyons aujourd'hui dépenser de l'argent, faire des campagnes pour lutter contre l'alcool, pour lutter contre le tabac, pour lutter contre la drogue. Parmi ces gens-là qui créent ces associations, il y a des ex-alcooliques, il y a des ex-drogués. Bien-aimés, ces gens-là n'ont pas cette grâce que nous, nous avons aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'habite pas en eux. Mais après avoir consommé 10 ans, être esclave, 10 ans, 15 ans, 20 ans de drogue, d'alcool, de drogue dure, ils arrivent à s'en sortir. Et nous, les chrétiens, on dira que c'est trop dur pour moi. Alors que nous avons le Saint-Esprit. Ces gens ont leur seule volonté. Ils se sont quelquefois rattachés à l'amour qu'ils ont pour leurs enfants, à l'amour qu'ils ont pour leurs parents. Et ils ont accepté de renoncer à tout. Ils ont accepté de payer le prix et de souffrir. Mais aujourd'hui, ils sont libres. Mais le Saint-Esprit n'habite pas en eux. Nous, nous avons le Saint-Esprit. La chose pour laquelle tu penses être esclave, tu as le moyen d'être libre aujourd'hui. Si tu fais le choix véritable, déterminé, et le Seigneur agira de cette manière-là pour nous rendre libres. L'apôtre Paul nous dit, voilà ce que nous étions autrefois. On n'avait pas le choix parce qu'on était liés. Mais aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes enfants de Dieu et nous ne sommes plus redevables de la chair. La dette a été payée. Jésus-Christ a payé la dette. Lorsque le Seigneur se révèle à Moïse, dans Exode 3, il dit à Moïse, « J'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser l'oppresseur. Et je suis descendu pour les délivrer. J'ai entendu les cris de mon peuple. Israël était esclave en Égypte. Après l'époque de Joseph, Israël était esclave. Il souffrait. Et lorsque Dieu envoie Moïse, Moïse va vers Pharaon, il dit, laisse aller le peuple afin qu'il adore dans le désert. Laisse ce peuple-là aller adorer son Dieu. Et Pharaon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va multiplier le travail. Il va dire aux gens, donnez-leur plus de travail à ce peuple-là. Qu'ils soient davantage esclaves. Et c'est comme ça que nous étions. Esclaves, accablés, liés par les liens de famille, liés par notre propre péché, liés par le système du monde qui nous empêche de penser à Dieu en nous faisant croire que nous sommes descendants du singe, que la terre n'est pas le fruit de la création, de l'intelligence de Dieu. On nous donne toutes sortes de doctrines pour nous éloigner, nous empêcher d'avoir même la pensée que le monde aurait pu être créé par Dieu. Cette question ne se pose même pas. Et si Dieu existait? On fait tout pour que l'homme soit éloigné de Dieu. Et tout ce système-là, toute cette réalité de notre vie, les réalités de notre famille, nous maintenaient esclaves. Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, le Seigneur a entendu les cris. Il a vu que nous étions au bout du rouleau, comme on dit, et il est descendu pour nous délivrer. Mais lorsqu'il est descendu pour délivrer Israël, il a accompli toutes sortes de prodiges et de miracles. Tout ce que les Égyptiens considéraient comme une puissance, considéraient comme un dieu, et c'était reconnu, l'Égypte était la plus grande puissance à cette époque-là. Qui pouvait leur résister? Et ils juraient par leur dieu. Le Seigneur ne s'est pas attaqué directement à l'armée de Pharaon. Il ne s'est pas attaqué directement à Pharaon. Il s'est d'abord attaqué à tout ce que les Égyptiens considéraient comme Dieu. Il les a vaincus un à un. Et il a montré à son peuple que c'est lui qui est le Dieu, le vrai Dieu parmi tous les dieux. Tous les dieux des Égyptiens ont été vaincus. Mais c'est ce qui faisait la force des Égyptiens. C'est ce qui faisait la considération des Égyptiens. Dieu les a vaincus. Et il a été encore très loin. Il a pris tout. Les premiers-nés des Égyptiens, des garçons. Et voilà que le Seigneur va démontrer à son peuple que c'est moi qui suis le véritable Dieu. Puisque je vous ai libéré maintenant, allez dans le désert et adorez-moi. Et voilà que ce peuple arrivé dans le désert va vouloir vivre encore comme des esclaves. Vous êtes libres maintenant. Dieu a dit, je suis descendu parce que j'ai entendu les cris. Le Seigneur avait vu la souffrance de son peuple et il les a délivrés. Mais étant libres désormais, au lieu de vivre cette communion avec Dieu qui venait de se révéler à eux de façon extraordinaire, voilà qu'ils vont vouloir vivre comme des esclaves. Mais Moïse, là-bas on avait la viande. Ils étaient devenus esclaves de la viande de l'Égypte. Ils n'ont pas voulu se rassasier parce que le Seigneur avait fait. Ils étaient esclaves de la vie qu'ils avaient autrefois là-bas. Au lieu de se considérer comme des gens libres maintenant, appartenant à Dieu, ils ont voulu vivre cette liberté en gardant quelques chaînes liées à leur passé. Mais les portes étaient ouvertes. Dieu avait manifesté qu'il était Dieu. Pourquoi ont-ils cherché à retourner dans le passé et à vouloir vivre comme des esclaves ? Par rapport à ce qu'ils avaient autrefois. L'un des points que nous soulevons, c'est uniquement l'orgueil. L'orgueil qui refusait de vivre selon le système de Dieu, selon les moyens que Dieu avait mis en place. Ils ont contesté l'homme de Dieu, Moïse. Est-ce que Dieu ne parle qu'à lui? En contestant Moïse, ils ont contesté Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle, parmi la génération de ceux qui étaient sortis, beaucoup n'ont pas vu la terre promise. Beaucoup n'ont pas vu la terre promise parce qu'ils se sont rebellés contre le Seigneur. Mais nous, nous avons été libérés. Pourquoi vivre comme si nous étions encore esclaves? Le problème qui nous terrasse ici souvent, pourquoi considérer que c'est un grand problème? Dieu a fait bien plus que ça lorsqu'il nous a délivrés. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous, on s'est convertis tard. Tu t'es converti, peut-être tu avais 25 ans, peut-être 30 ans, peut-être 50 ans. peut-être moins. Mais si tu t'es converti pendant que tu avais 25 ans, ça veut dire que pendant 25 ans, le Seigneur avait le regard posé sur toi. Pendant 25 ans, le Seigneur permettait certaines choses de ta vie afin de t'amener un jour à le reconnaître. Pendant 25 ans, le Seigneur t'a cherché. Pendant 25 ans. Et maintenant que nous sommes libres, pourquoi considérer que ce qui nous embête aujourd'hui va être beaucoup plus difficile à chasser que ce que le Seigneur a fait autrefois? Une personne qui passe une année en prison, lorsqu'elle ressort de la prison, elle est plus ou moins normale. Elle arrive à se réinsérer et à reprendre une vie normale. Mais une personne qui a passé 20 ans, 25 ans en prison, quand vous entendez les témoignages, ce sont des gens qui sont perdus. Ce sont des gens qui ont peur des hommes, qui ne savent plus à qui faire confiance. Ils sont totalement perdus parce qu'en 25 ans, la technologie évolue. Ils ne savent pas comment chercher un appartement, ils ne savent pas se repérer. Ils sont totalement perdus parce que le temps pendant lequel on reste esclave aura aussi une influence très forte par la suite. Alors quand tu t'es converti à 25 ans, à 40 ans, à 50 ans, ça veut dire que pendant tout ce temps-là, tu n'as fait que accumuler des mauvaises choses. Tu n'as fait que accumuler et prendre l'habitude de vivre dans un système de vie qui ne glorifiait pas Dieu. Et ces 25 ans-là, au moment où tu acceptes le Seigneur, 50 ans après, 60 ans après, où tu acceptes le Seigneur, à ce moment-là, toutes les chaînes qui te retenaient captives depuis 60 ans sont brisées et tu penses que le problème qui te tient depuis 6 mois, depuis 1 an, Dieu ne va rien faire. Comment le Seigneur pourrait nous délivrer de quelque chose qui nous a tenus pendant tant d'années et quelque chose qui dure depuis des mois? Tu as le sentiment que tu ne vas pas t'en sortir. Dieu est tout puissant. Mais la question c'est, est-ce que toi tu as cette détermination? L'influence qui est là, bien aimé, est petite. Le Seigneur a vraiment tout accompli. Nous prenons Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Le verset 11 nous dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous? Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Voilà la bonne nouvelle. Nous étions autrefois esclaves du péché. Le péché régnait en nous. Le péché régnait en nous. Et l'apôtre dit, mais ne livrez pas vos membres au péché. Donc, c'est presque un ordre qu'il donne. Donc, lorsque on donne un ordre à quelqu'un, mais ça veut dire que les moyens sont là pour. Lorsque tu dis à ton enfant, va me chercher le balai, mais ça veut dire qu'il y a bien un balai quelque part. Tu ne vas pas lui donner un ordre dans quelque chose d'imaginaire qu'il doit inventer, créer, non. Tu lui demandes de faire quelque chose parce que tu sais qu'il y a la possibilité de le faire. Donc quand Paul dit, ne livrez pas vos membres au péché, mais ça sous-entend que vous pouvez vivre sans péché. Donc ça sous-entend que la décision est dans notre camp. Lorsqu'il nous invite à ne pas le faire, ça veut dire que nous avons la capacité à ne pas le faire. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc si il nous dit cela, c'est que nous avons la possibilité de nous rebeller devant la tentation du péché. Nous avons ce moyen-là de vivre et de faire la volonté de Dieu. Nous avons le moyen de renoncer à la chose à laquelle nous pensons être esclaves. Nous avons ce moyen. Mais pourquoi nous avons ce moyen? Mais il explique tout simplement, puisque tout a été accompli en Jésus. Le péché a été vaincu. Donc le péché, en réalité, n'est plus un problème. N'est plus un problème. Je dis souvent que, en prenant l'exemple des mathématiques, lorsqu'on était au collège et qu'on nous donnait un problème à faire, tel est parti au marché, il avait 10 euros, il achète des pommes pour 5 euros, combien lui reste-t-il? Et là, on te demande de trouver la réponse. C'est ça qu'on appelle le problème. Mais lorsqu'on te présente le problème de cette manière, mais qu'à côté, on te met déjà la réponse, est-ce que c'est encore un problème? Ce n'est plus un problème, puisqu'il y a déjà la solution. Alors, quand on nous dit que le péché a été vaincu, est-ce que le péché est encore un problème? Il ne devrait plus être un problème, puisque la solution a déjà été donnée en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre nous dit, vous n'êtes plus obligé d'être esclave du péché. Vous n'êtes plus obligé d'obéir à votre corps qui réclame de vivre à l'encontre des Écritures. Vous n'êtes pas obligé de lui obéir. Ça veut dire que vous avez donc la capacité de vivre différemment et de faire les choses autrement. Cette capacité est là. Et on doit être convaincu de ça. On doit être convaincu que réellement la puissance du péché a été vaincue. C'est pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus-Christ, il a montré à ses disciples en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu par lequel le péché est expié. Donc la puissance du péché qui nous retenait esclaves a été vaincue à cause du sang de l'agneau. C'est à nous maintenant de faire le choix de vivre en tant que gens libres, des gens libérés par la puissance de Dieu, de vivre comme des citoyens du ciel qui ont décidé de ne plus être esclaves du monde, de ne plus être esclaves de la chair. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit au verset 18? Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de Dieu. Je lis à partir du verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Vous avez obéi de cœur, c'est-à-dire vous avez obéi personnellement, délibérément. Vous avez obéi avec sincérité, vous avez obéi volontairement. C'est ça, obéi de cœur. C'est-à-dire que ça n'a pas été imposé, ça n'a pas été forcé. Ça a été un choix volontaire, un choix personnel. Et ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc nous passons d'un état d'esclave à un autre état d'esclave. Mais l'état d'esclave dans lequel nous étions premièrement était un esclavage qui nous amenait à la mort, qui nous amenait à la perdition, qui nous amenait à détester les autres, qui nous emmenait à se battre avec les autres, qui nous emmenait à mentir, qui nous emmenait à être violent, qui nous emmenait à avoir une vie désordonnée. Nous étions esclaves de cela. Mais étant sortis de cet esclavage-là, nous entrons maintenant dans l'esclavage de la justice, c'est-à-dire des esclaves de Dieu. Mais quand on sait qui est Dieu, quand on connaît la bonté de Dieu, quand on connaît l'amour de Dieu, alors c'est avec joie que nous sommes devenus esclaves de cette justice-là. Mais quand on dit esclave, ça veut dire aussi que la vie ne nous appartient pas. Autrefois, la vie appartenait au monde. La vie appartenait au péché. On était manipulés. Là où le péché nous emmenait, on y allait. Et on se sentait impuissant devant ces réalités-là. Mais nous sommes devenus maintenant esclaves de Dieu. Ça veut dire que notre vie appartient désormais à Dieu. Un esclave, sa vie ne lui appartient pas. La vie appartient à un maître. Et il n'est plus libre de faire ce qu'il veut. Mais l'apôtre dit, cet esclavage-là, vous l'avez choisi de cœur. C'est de bon cœur que vous l'avez choisi. C'est un choix délibéré parce que vous avez calculé. Vous avez compris qui était Dieu. Et on a compris que mieux vaut être esclave de Dieu que d'être esclave du diable. Le diable nous amènera à la mort, mais être esclave de Dieu nous emmènera à la vie. Et étant sortis de l'esclavage du diable, nous sommes désormais esclaves de la justice, esclaves de Dieu. C'est-à-dire que notre vie est consacrée à Dieu et que nous n'avons pas un autre mode de vie qui convient au Seigneur. conforme aux Écritures. C'est-à-dire que c'est quelque chose désormais qui est en nous et que nous vivons automatiquement parce que nous avons fait ce choix-là volontairement. Jésus-Christ a vaincu le péché. Il n'y a rien, bien-aimé. Nous ne sommes plus obligés de rester sous l'esclavage de quelque chose. Que ça soit ton caractère, que ça soit des mauvais films, que ça soit des mauvaises paroles que tu as l'habitude de dire, nous ne sommes plus obligés d'obéir à ça. Jésus-Christ l'a vaincu et étant désormais libre, il nous donne aussi l'autorité d'être au-dessus de toutes ces choses-là. Alors la question, qu'est-ce qui nous manque? Je l'ai cité principalement et je reviendrai là-dessus. C'est la détermination. Mais je reviendrai là-dessus. Une chose nous manque. Nous prenons 1 Jean chapitre 5. Qu'est-ce qui fait que le péché, que les choses pour lesquelles nous avons pris l'habitude de vivre pendant des années, on a le sentiment qu'on n'arrivera jamais à s'en débarrasser. Mais j'aime dire que avoir le sentiment, penser que ça ne reflète pas forcément la réalité. La réalité, ce n'est pas dans les « il paraît », dans « je pense que je crois que ». La réalité se trouve dans « il est écrit ». Et c'est ça qui est de loin le plus important. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Jean 5, au verset 3, il est écrit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » La foi est un élément important et incontournable pour vivre une vraie communion avec le Seigneur. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. C'est par la foi que nous vivons et c'est par la foi que nous pouvons être considérés comme justes. La foi est le commencement de notre vie avec le Seigneur et c'est ce qui va consolider tout au long de notre marche sur terre, notre communion et notre relation avec Dieu. C'est par la foi que nous acceptons ce que Dieu permet dans notre vie. C'est par la foi que nous recevons les bénédictions de Dieu. C'est par la foi que nous nous attendons à l'intervention de Dieu. C'est par la foi que nous espérons à la réalité du ciel. La foi est incontournable. Et ce qui nous emmène quelquefois à croire que le péché est trop au-dessus de nos forces, c'est le manque de foi. Le manque de foi nous fait oublier que Jésus-Christ a tout accompli. Le manque de foi nous fait oublier que le péché ne peut pas être au-dessus de mes forces. Le manque de foi nous fait oublier même les promesses de Dieu. Quand il y a des gens qui vivent des épreuves et qui sombrent dans l'épreuve, qui se rebellent contre Dieu dans l'épreuve, qui murmurent contre Dieu dans l'épreuve, c'est parce qu'au moment où ils vivent l'épreuve, ils oublient toutes les promesses de Dieu. Ils ont dans leur tête que des mauvaises paroles. Ils ont dans leur tête que de voir un avenir sombre. Mais ils oublient toutes les promesses de Dieu, tous les versets bibliques qui sont censés les rassurer et les fortifier au moment où ça ne va pas. Parce que la foi est étouffée à cause des réalités de la vie. Le manque de foi, bien-aimé, va nous amener à considérer le péché comme étant quelque chose de trop fort, de trop puissant. Et on ne peut pas faire autrement que de vivre en péchant un petit peu ou en péchant quelquefois. Et on vit avec cette réalité-là en se disant, bon, nous sommes sur la terre, bon, on accepte, ça sera parfait qu'on soit au ciel. Bon, voilà, et quelque part on s'excuse un petit peu, on tolère un petit peu nos écarts, nos fautes. Mais à force de tolérer et d'accepter nos écarts, on risque un jour de faire vraiment un grand écart au point de ne pas pouvoir se relever. Le manque de foi n'est bon pour personne. Mais avoir la foi, c'est aussi une question de choix. Le choix de croire que la Bible est vraie. Le choix de croire que Dieu dit la vérité. Le choix de croire que Dieu nous aime et que le péché a été vaincu. Dès l'instant où nous faisons ce choix-là, c'est là où le Seigneur nous soutient et manifeste sa puissance pour nous aider maintenant à surpasser et à surmonter l'épreuve. Bien-aimés, je ne suis pas en train de dire que nous allons être forts par nous-mêmes. Personne ne peut être fort par lui-même. Celui qui est fort par lui-même, c'est qu'il n'est pas chrétien. Un chrétien tient debout parce que c'est Dieu qui le tient. Mais le Seigneur fonctionne avec nous, avec la liberté. Cette liberté de nous laisser choisir, chaque jour de faire le choix, de marcher avec le Seigneur et de considérer que ses promesses pour nous sont valables encore aujourd'hui. C'est ça la foi. Et nous connaissons tous les moyens que Dieu utilise pour nous faire grandir dans la foi, les épreuves et ainsi de suite. Mais la Bible nous dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acceptons les Écritures. Acceptons de croire en la parole telle que Dieu nous l'a présentée. Même si on ne comprend pas tout, tout de suite, acceptons de croire tel que c'est écrit. Pratiquons tel que le Seigneur l'a dit et croyons que c'est possible. La Bible, ce n'est pas une question d'époque. Comme certains le disent, non, il faut resituer dans le contexte, à l'époque, il devait pratiquer. Non, la Bible est actuelle, puisque Dieu n'est pas un Dieu d'époque. Il dit, je suis. Lui, il n'a ni commencement ni fin. Comment tu vas parler d'époque? Lui n'est pas conditionné par le temps et par les saisons telles que nous le sommes. Lui, il est aujourd'hui. Donc, sa parole, c'est chaque jour. C'est comme si chaque jour, il a répété. C'est comme si chaque jour, il a prononcé. Elle est valable aujourd'hui. Ce n'est pas une question d'époque. Et nous devons croire en cela et le vivre chaque jour. Non pas en fuyant, en disant, mais c'était des contextes particuliers, ainsi de suite. Non, la Bible est actuelle et elle est valable encore aujourd'hui. Alléluia. Et nous devons aussi grandir dans l'amour de Dieu. Comme l'apôtre dit au verset 2, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu se témoigne par la pratique de la parole de Dieu. J'aime dire qu'on peut donner toutes les offrandes de la terre. On peut crier « j'aime Dieu ». Mais, bien aimé, c'est du blablabla. Ce que Dieu veut, c'est du concret. Dieu est pragmatique. Tu dis quelque chose, prouve-le par ta manière de vivre. C'est tout. Pratique la Bible, c'est comme ça que tu vas témoigner que tu aimes Dieu. Dieu ne regarde pas celui qui aime plus parce qu'il a donné plus d'offrandes. Loin de là, Dieu regarde celui qui pratique sa parole au quotidien. Et quand tu pratiques la parole de Dieu et que tu démontres ton amour, forcément tu ne veux pas le décevoir. Alors plus tu grandiras dans l'amour de Dieu, moins tu auras envie de le décevoir. Et lorsque la tentation du péché sera là, que tu sentiras la colère monter à cause de l'amour que tu as pour Dieu, tu accepteras de souffrir et d'être considéré comme le dernier, d'être accepté d'être insulté parce que tu aimes tellement Dieu. On avait regardé une fois le témoignage de Nicky Cruz. Certains l'ont vu, d'autres peut-être pas, je ne sais pas. Et à un moment donné, Nicky Cruz était un homme qui a grandi dans la rue, qui a été abandonné et il a eu une vie de délinquant. Alors c'était la bagarre, la drogue, l'affrontement, la débauche, c'était ça sa vie. C'était quelqu'un de la rue. Et voilà que lorsqu'ils vont avoir des conflits avec un autre gang, les membres de l'autre gang vont chercher à le tuer. Alors ils vont le trouver avec d'autres personnes, seulement les personnes avec qui étaient ses amis, un de ses amis avait pris son blouson. Alors, voyant le blouson, ils ont dit c'est lui, ils ont tué l'ami. Et tout le monde courait en pagaille, et lorsqu'il est rentré chez lui, il voulait en finir avec la vie. Et il dit, j'entendais la voix du diable qui me disait, tue-toi, tu ne vaux rien, ta vie ne vaut rien. Et il a pris l'arme, et il se regardait dans le miroir, prêt à se tuer. Mais soudainement, l'amour qu'il avait pour son ami, il a dit, non, je ne peux pas mourir comme ça. Je dois venger mon ami avant de mourir. Donc, l'amour qu'il avait pour son ami a empêché l'action du diable sur sa vie. Il n'était pas chrétien. Mais juste par ce sentiment d'amour qu'il avait vis-à-vis de son ami, il a dit, je dois d'abord venger mon ami avant de mourir. Alors, je ne veux pas me tuer maintenant. Mais il dit, j'entendais la voix du diable qui m'incitait, qui me poussait. Aujourd'hui, il est converti. C'est un prédicateur aujourd'hui. Gloire à Dieu. Mais c'est pour montrer, bien aimé, que lorsque l'on aime, l'action du diable peut être réduite à néant. Donc notre amour pour Dieu nous emmènera à refuser de nous livrer au péché, d'accepter que quelque chose d'autre que Dieu domine sur nous, d'accepter que nous sommes esclaves de quelqu'un ou de qui que ce soit. Par amour pour Dieu, on va refuser que quelqu'un d'autre domine sur nous. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Je suis désormais à la gloire de Dieu. Ma vie est pour la gloire de Dieu, donc je refuse que quelqu'un d'autre vienne dominer que Dieu lui-même. Le trône sur ma vie est occupé par Jésus et je ne veux pas que ce trône soit partagé. Et lorsque cet amour-là grandit en nous, il nous préserve du péché et il nous emmène à refuser de demeurer sous l'esclavage de quelque chose. Cet amour que nous devons avoir pour le Seigneur. Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Voilà la promesse du Seigneur. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Qu'est-ce qui nous amène à être esclaves de quelque chose? Comme je disais tout à l'heure, il y a certaines choses pour lesquelles nous sommes esclaves, qu'on utilise quelquefois et qui nous sort quelquefois des situations. Il y a des choses pour lesquelles nous sommes esclaves qui nous suscitent comme un semblant de bonheur pendant un temps où nous sommes esclaves de la chose. On prend plaisir à ça à un moment donné. Donc ça réjouit un peu notre chair. Après, il y a la culpabilité du péché qui est là, mais avant ça, il y a comme une joie, une satisfaction de vivre de la chose pour laquelle nous sommes esclaves. Mais la Bible nous dit, contentez-vous de ce que vous avez. Qu'est-ce qui fait que quelquefois, on se maintient dans l'esclavage de quelque chose? C'est qu'on ne veut pas se contenter de vivre sans ça. On a le sentiment que sans ça, il va me manquer quelque chose, parce que cette chose-là m'apporte quand même une petite satisfaction. Le Seigneur dit, contentez-vous de ce que vous avez. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout ce que Dieu nous a donné de bon, selon lui. Tout ce qui n'est pas bon selon Dieu, c'est ce que nous devons nous débarrasser. Et nous contenter des bénédictions que Dieu nous donne, des moyens que Dieu nous donne pour vivre, en comprenant que c'est avec ça que je vais vivre. Certains sont esclaves des jeux, esclaves de la volonté de gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'ils vont même négliger la famille en ayant 2-3 travails parce qu'il faut à tout prix rentrer de l'argent. La Bible nous dit ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Tu as un salaire, vis avec ce salaire-là et prends du temps avec tes enfants. Tu pars le matin, les enfants dorment. Tu rentres le soir, ils sont déjà couchés. Mais c'est quoi cette vie de famille? C'est plus une famille. Ce qu'on appelle une famille, dans la notion de famille, il faut aussi qu'il y ait la notion de proximité. Il faut aussi qu'il y ait la notion de présence, qu'on soit proche. Je discutais un jour avec une infirmière avec qui je travaillais. À l'époque, je devais avoir 22 ans peut-être. L'infirmière devait avoir une cinquantaine d'années. Donc ses enfants étaient peut-être un peu plus jeunes que moi, peut-être plus ou moins du même âge. Et un jour, je me rendais dans son bureau. Et je discute avec elle à un moment donné, elle arrête de parler puis elle avait les larmes aux yeux. Elle me dit, quand je parle avec toi, je me rends compte que je n'ai même pas vu grandir mes enfants. Je me suis consacré au travail et je me rends compte qu'aujourd'hui mes enfants ne vivent plus avec moi, ils ont pris leur indépendance. J'ai raté toutes ces années. Et c'est le conseil qu'elle me donnait. Elle me dit, j'ai raté toutes ces années. Et malheureusement, on ne peut pas rattraper tout ça. Contentons-nous de ce que nous avons. Vouloir plus, bien-aimé, va nous rendre esclaves de la chose que nous désirons plus. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est ce qu'il nous faut pour vivre. Contentons-nous de ça. Si tu n'as pas les moyens d'être propriétaire, gloire à Dieu. Est-ce que tous les propriétaires, on va les enterrer avec leur maison? On va pas enterrer avec la maison. Pourquoi en faire comme un objectif à tout prix? Si Dieu t'en donne les moyens et que Dieu t'inspire, gloire à Dieu, fais-le. Et tu vis, c'est pas d'acheter et puis de manger les pommes de terre tous les jours. Tu le fais parce que tu as les moyens, parce que Dieu t'a béni pour ça, et gloire à Dieu. Mais c'est pas, ça doit pas être un objectif. Enfin, le Seigneur dit, mais même les renards savent où dormir. Même les renards ont des tanières. Il disait ça à un disciple qui voulait le suivre. Je veux te suivre. Il dit, tu veux me suivre? Il dit, mais regarde les animaux. Même les renards savent où dormir. Moi, je n'ai pas un endroit fixe. Tu veux quand même me suivre? On doit accepter de vivre dans le contentement. Refusant le contentement, on se maintient dans l'esclavage. On se maintient attaché à la chose qui nous dérange et qui nous ramène tant de remords et de culpabilité. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a des moments donnés dans la vie chrétienne où les choses semblent simples, semblent faciles. Il y a des moments où la louange coule. Tu as envie de chanter, tu sens que ça déborde, la joie est là. Il y a des moments donnés où prier, les sujets ne manquent pas, ça sort, c'est là. Il y a des moments où parler du Seigneur, c'est là. Il y a des moments où l'envie de servir Dieu, l'envie de venir se réunir avec les frères, c'est là. Donc tu sens un manque, un besoin, c'est quelque chose qui est là, ça coule. Et il y a des moments où tout ça semble étouffé. Où prier devient difficile. Où chanter devient difficile. Tu essaies de chanter pendant que tu sors un mot. Tu penses peut-être au feuilleton de ce soir. Tu penses à l'événement qui s'est passé ce midi. Tu penses à l'insulte qu'on t'a donnée. Tout ça vient te perturber. Tu n'arrives pas. Tout devient lourd. Tu veux passer du temps à méditer la parole de Dieu. À chaque fois, le sommeil te saisit. Quand le sommeil ne te saisit pas, tu te trouves des petites excuses. Non, il fallait que je prépare. Il fallait que je fasse ceci. Il fallait que je fasse cela. Et puis, à la fin de te coucher, quand le remords est là, tu te dis, bon, après tout, bon, j'avais ça à faire. J'avais ceci, j'avais cela. Donc, parce que ça devient difficile. C'est là où, bien-aimé, la détermination est importante. C'est là où la détermination est importante. Quand une personne est décidée à vivre, bien-aimé, quand cette personne est malade, même si elle n'a pas l'appétit pour manger, mais qu'on lui dit les médicaments sont efficaces quand tu prends un peu de nourriture, même sans l'appétit, il va manger. Parce que là, c'est sa vie qui est en train de se jouer. Il n'a pas faim, mais il mange. Il n'a pas envie de prendre des médicaments, mais il les prend. Parce que là, c'est une question de vie ou de mort. Et le Seigneur nous dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Donc, au moment où le Seigneur semble loin, au moment où tu sembles submergé par tout ce qui t'entoure, c'est là où il faut se faire violent, c'est là où il faut être déterminé à se dire, non, je refuse cet état. Je refuse cet état, donc il faut avoir cette volonté. Bien-aimé, vous voyez le temps que le Seigneur a mis pour nous sauver. Mais si Dieu pouvait nous sauver dès l'âge de 14 ans, mais il l'aurait fait. Si à 14 ans tu t'es pas converti, c'est parce que ton cœur ne voulait pas de Dieu. Si à 20 ans tu ne t'es pas converti, parce qu'à 20 ans tu ne voulais pas entendre parler de Dieu. Donc pendant tout ce temps-là, Dieu travaillait. Pendant tout ce temps-là, Dieu travaillait. Alors vous imaginez que cette volonté-là, pendant que Dieu te voulait à lui, mais que tu résistais, la volonté de résister à Dieu, de dire non, moi c'est le monde, moi c'est la danse, moi c'est la musique, moi c'est les petits copains, moi c'est les petites copines, moi c'est la débauche. Cette volonté que tu avais de demeurer dans cette vie, Dieu n'a pas pu la violer. Dieu n'a pas pu la forcer pour t'amener à lui. Ça montre bien aimé que la volonté de l'homme est quelque chose de puissant. Parce que c'est même cette volonté qui maintient l'homme dans l'orgueil et loin de Dieu. C'est cette volonté d'être son propre chef que l'homme prend pour oser défier Dieu. C'est cette volonté-là. Bien aimé, c'est pour montrer que dans l'autorité qu'il y a dans la volonté de l'homme, il y a quelque chose de très fort. Alors si cette volonté-là qu'on avait pour résister à Dieu, bien-aimé, c'est cette même volonté ou plus qu'on la met pour être fidèle à Dieu, alors soyons certains que tout ce qui nous retient captifs va sauter un à un. Le royaume des cieux appartient aux violents. L'envie n'est pas là. Tu sens la faiblesse qui est là, mais la détermination te refuse parce que tu aimes le Seigneur, parce que tu as la foi en promesse de Dieu, parce que tu te souviens du sacrifice de Jésus. Et cette détermination va t'aider finalement chaque jour à faire le choix de vivre une vie de sainteté avec Dieu. La victoire avec Dieu, c'est chaque jour qu'on l'expérimente. Et vous savez, lorsque vous êtes habitué à expérimenter des victoires, c'est quelque chose à laquelle on prend goût et que finalement, on veille pour que ça demeure. Donc quand chaque jour, aujourd'hui, tu arrives à vaincre le péché qui te dérangeait, c'est une victoire, on bénit le Seigneur. Demain, ça recommence, tu arrives encore à vaincre, bien-aimé. C'est quelque chose auquel tu prends goût, de vivre dans la sainteté, de vivre loin du péché, d'être au-dessus de ce péché-là, avec l'humilité, bien sûr, mais en étant certain que Dieu te soutient. Et quand tu prends cette habitude-là, eh ben, tu vas te rendre compte un jour, un beau matin, tu te réveilles, tu te dis, oh, tiens, le péché qui me terrassait, je n'y pense même plus. Je n'en ai même plus envie, ça ne me dit même plus rien du tout. Parce que tu as pris l'habitude, chaque jour, de recommander ta vie à Dieu. Tu as pris l'habitude chaque jour de faire le choix, de suivre le Seigneur. Tu as pris l'habitude chaque jour d'être déterminé pour vivre une véritable communion avec Dieu. Un conseil pratique, bien-aimé. Prenons l'habitude de meubler nos journées dans les choses du Seigneur. Que nos pensées, que nos regards soient tournés vers le Seigneur. Plus nous allons être distraits, plus nous allons donner accès à tout ce qui nous ramène dans le passé. Mais plus nos pensées vont être vers Dieu, moins on aura la pensée de retourner vers la chose qui nous dérange, vers la chose pour laquelle nous sommes esclaves. C'est ça la réalité. Plus nous sommes habitués à faire l'œuvre de Dieu, à consacrer notre vie à Dieu, à travailler pour le Seigneur, moins nous avons le temps pour autre chose. Ceux qui travaillent du matin au soir, matin au soir, matin au soir, est-ce qu'ils arrivent à un moment donné à avoir une vie normale de prière, une vie normale? Celui qui est commercial, qui passe son temps au téléphone, ainsi de suite, bien-aimé. Toute cette journée-là, il n'y a pas un temps où il pense à Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de travailler, loin de là. Je suis en train de dire que même le travail que tu fais, cherche où est l'intérêt dans tout ça. Même le travail que tu fais, considère que c'est Dieu qui t'envoie, que tu es dans la mission de Dieu. Même le travail que tu fais, considère que c'est un moyen que Dieu te donne. C'est un instrument pour accomplir l'œuvre de Dieu. Même ça, considère-le pour Dieu, afin qu'en toute chose, dans tout ce que tu fais, tes pensées soient toujours tournées vers le Seigneur. Les études que tu fais, pense que c'est pour le Seigneur. Là où Dieu veut t'emmener, qu'est-ce que Dieu veut faire demain? Qu'est-ce que Dieu veut faire par la suite? Considère que c'est pour Dieu que tu fais tout ça. Et quand nos pensées sont tournées vers Dieu, bien-aimés, elles seront moins occupées à pécher, tout simplement. On sera moins occupés à pécher et on ne sera plus esclaves de la chose pour laquelle nous pensons être esclaves. Ce songe que j'ai fait m'a réveillé, m'a encouragé. Et aujourd'hui, je ne regarde pas où est le diable, où sont les démons. Je considère que j'ai la volonté, que Dieu m'a donné la capacité de faire le choix. Et lorsque je fais le choix, alors j'invite aussi l'intervention de Dieu qui vient se manifester et se glorifier, prendre toute la place afin que tout ce qui voulait rivaliser avec Dieu dans ma vie soit chassé au nom de Jésus. Ah, Jésus-Christ seul soit la gloire. Seigneur, béni soit ton saint nom. Toi qui règnes d'éternité en éternité, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te bénissons. Je te bénis, je te dis merci, Seigneur Dieu de gloire, pour la victoire de Jésus-Christ à la croix, Seigneur, qui nous a rendus aussi vainqueurs sur la mort, vainqueurs sur le péché, vainqueurs, Seigneur Dieu de gloire, sur les désirs de la chair. Je te bénis, Seigneur de gloire, pour cela. Seigneur, merci, parce que en nous rendant victorieux, tu nous as donné aussi l'autorité, afin que nous puissions marcher, Seigneur de gloire, en nouveauté de vie, Seigneur. Que nous puissions marcher selon tes écritures et accomplir ta volonté. Alléluia. Seigneur, tu es vivant et nul n'est semblable à toi. Dans le nom de Jésus. Nous allons reprendre ce chant que nous avons chanté avant la parole. Le Seigneur nous a formés à son image. Alléluia. Et c'est la vérité. Nous sommes désormais devenus des instruments d'adoration. Et en prenant ce chant-là, nous allons tout simplement proclamer à tous ceux qui veulent l'entendre, la chair, le diable, les démons, que notre vie désormais doit être à l'image de Dieu. Voilà, Dieu dans sa grandeur, dans sa toute-puissance, il n'a pas regardé que nous soyons de simples créatures, non. Il nous a donné beaucoup plus de valeur que ça, parce qu'il a